Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel.
Bonjour et bienvenue dans Dialogue numéro 2. Bonjour François Sorel.
Bonjour Jérôme Colombin, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Le premier dialogue s'est bien déroulé la semaine dernière et bien écoutez, on rempile en ce mardi.
Alors au sommaire cette semaine, on parlera de fracture numérique. Tous les départements français ne sont pas logés à la même enseigne en termes d'accès à Internet. On ira voir comment ça se passe en Corse.
Oui, la Corse, sa charcuterie, son soleil, mais aussi...
Et bientôt son triple play.
On parlera aussi de la télévision haute définition. Tout à l'heure, vous saurez tout sur l'arrivée de la HD en France, comment ça marche, combien ça coûte, vous saurez tout.
Enfin, gros plan sur le commerce électronique et notamment le commerce en ligne entre particuliers.
Et pour débuter ce dialogue numéro 2, Jérôme, on va parler de fracture numérique et de l'Internet des villes et de l'Internet des champs avec cette annonce que Christian Estrosi a faite il y a quelques jours. Christian Estrosi qui, rappelons-le, est ministre délégué à l'aménagement du territoire. Selon lui, d'ici fin 2007, 100% de la population serait couverte en télévision numérique terrestre, en téléphonie mobile, mais aussi en haut débit.
Oui, alors espérons que ce ne sera pas simplement un effet d'annonce, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de promesses dans ce sens, et puis on s'approche de 2007. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de départements français aujourd'hui sont laissés sur le bord de la route, sur le bord des autoroutes de l'information. Et c'est le cas de la Corse. On a choisi d'aller voir ce qui se passe sur l'île de Beauté, parce que comme son nom l'indique, c'est une île, donc c'est pas facile là-bas d'amener toutes ces technologies.
Et pour en parler, on a un spécialiste, c'est le chef de la mission des technologies d'information pour la Corse, Eric Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous un petit peu où en est la Corse aujourd'hui en matière de haut débit. Est-ce que c'est une région qui est favorisée en matière de technologie de l'information aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui la région Corse n'est pas très favorisée en termes de haut débit. Il y a en Corse aujourd'hui aucune zone dégroupée, donc nous ne bénéficions en termes de services à haut débit que les services de l'opérateur historique France Télécom, et aujourd'hui ces services sont relativement pauvres par rapport aux régions que l'on peut connaître sur le continent avec des offres extrêmement intéressantes, notamment le triple play.
Si par exemple je m'abonnais à un opérateur alternatif en Corse, je peux, hein, donc les Free, les 9 Télécom, etc., Club Internet, ça fonctionne, mais je ne peux pas en fait résilier mon abonnement France Télécom, c'est ça, hein ?
C'est pire que ça. Si Free voulait offrir, dans les conditions actuelles, ses offres à haut débit, à DSL 2+ et triple play, eh bien, il paierait plus que ne paye l'abonné pour accéder à l'offre à haut débit.
Oui, donc c'est pas du tout intéressant.
Ouais.
Donc on est en plein, Eric, dans ce qu'on appelle la fracture numérique. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer ça aujourd'hui ?
Concrètement, en ce qui concerne le réseau haut débit pour la Corse, nous construisons 700 km de génie civil pour passer de la fibre optique, qui sera la fibre optique de la collectivité territoriale et qui servira à dégrouper l'ensemble des répartiteurs du territoire de la Corse.
D'accord. Alors, le but du jeu, après, c'est de couvrir toutes ces petites communes hein, qui font aussi toute la richesse et la beauté de la Corse. Le souci, c'est que avec la DSL, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut trouver des technologies innovantes.
Nous favorisons énormément des solutions et des expérimentations alternatives se basant sur du satellite et du Wi-Fi. Aujourd'hui, la collectivité se prête à l'exercice de vouloir obtenir une fréquence WiMAX.
Donc le WiMAX, c'est une sorte de super Wi-Fi du sans fil à longue portée. Hein.
Tout à fait.
Quand est-ce que tout ça fonctionnera ?
Alors, le réseau de la collectivité doit être livré contractuellement au 1er septembre 2007.
D'accord, ben on va patienter.
Et on ira voir ça en Corse.
Voilà, on ira faire l'émission directement là-bas. Merci
très
beaucoup,
bien. Eh bien, on vous accueillera volontiers.
Merci beaucoup. Enfin. Rappelons que vous êtes chef de la mission des technologies de l'information pour la Corse.
Dialogue, la chronique des nouvelles technologies.
Bon Jérôme, on va parler d'une autre technologie qui arrive, c'est le HD. Est-ce que tu es HD ready toi ?
Moi je suis ready à tout moi.
Tu es ready à tout ?
Oui, bon. 100%.
On va parler de la HD parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle de cette télévision haute définition, 4 fois supérieure à la télévision traditionnelle. Certains experts nous disent que le fait de passer de la télévision traditionnelle à la télévision HD, c'est un peu comme, tu sais, à la fin des années 60, on était passé du noir et blanc à la couleur. Alors peut-être que le gap est pas aussi impressionnant que ça, mais c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois.
Démonstrations des showrooms et tout.
C'est vraiment impressionnant. Le seul souci, c'est que aujourd'hui les téléviseurs qui permettent l'HD existent, hein, ce sont des écrans plats, qu'ils soient LCD ou plasma, mais pour donner à manger à ces écrans, bon, on n'a rien. Voilà.
Alors, on va avoir très bientôt, puisque ça y est, maintenant, ils viennent de sortir du bois, en l'occurrence les opérateurs de satellites, de câbles, etc. C'est TPS le premier qui ouvre le bal. Ils annoncent qu'ils vont diffuser des programmes en HD à partir du mois de février. Le câble également, nous se prévoit ça vers le printemps, et puis on pourra recevoir également la HD par ADSL et par la TNT, c'est-à-dire tous ceux qui reçoivent la télévision numérique aujourd'hui. Mm-hmm. Mais ADSL et TNT, c'est un peu plus compliqué, il y a des problèmes qui sont pas réglés, et donc on n'a pas encore de date apparemment.
Bon alors on sait combien coûte un écran HD, hein. Aujourd'hui, on trouve un écran HD aux alentours des 1 500-2 000 €. Hein.
D'abord, il faut un écran HD ready, c'est-à-dire prêt pour la haute définition. Attention, il paraît qu'il y a des vendeurs peu scrupuleux qui proposent aux clients des téléviseurs en leur disant « ça, c'est oui, c'est compatible HD ». Ça veut dire quoi, compatible HD ? Ça veut dire que quand vous balancez de la haute définition dedans, c'est sûr, vous aurez une image, vous n'aurez pas un écran noir. Mais vous n'aurez pas forcément cette magnifique haute définition.
Combien ça va coûter tout ça ?
La bonne nouvelle, c'est que les images sont magnifiques. Le son aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir quasiment changer tous les appareils à la maison. L'écran, tu viens de le dire, un décodeur pour recevoir cette télévision à haute définition. Et puis, si on veut regarder des films, il faudra des DVD HD, donc un lecteur d'un nouveau genre. Il y a deux formats qui se tirent la bourre. Mmh. On se rappelle les débuts de la vidéo
du magnétoscope, VHS, V2000, Betamax, tous ces systèmes qui se battaient.
Donc le CES de Las Vegas vient de se terminer. Ouais. Il y a eu beaucoup d'annonces autour du HD DVD et du DVD Blu-ray, qui sont donc les deux formats en concurrence. Les premiers lecteurs apparemment vont arriver au printemps. Avantage en termes de prix au HD DVD qui est moins cher, on parle de je crois 500 € pour les premiers lecteurs,
ce qui est énormissime quand même, hein. 500 € un lecteur DVD super boosté, ça fait cher quand même.
Rappelle-toi les prix des lecteurs de DVD quand ils sont sortis, des DVD simples. Et le DVD Blu-ray, lui, il est beaucoup plus cher. On tape d'entrée de jeu à 1 000-1 800 €.
Tout à fait. Mais l'avantage du Blu-ray, c'est que ce sera quand même le lecteur de la PlayStation 3 qui est prévu cette année.
Ouais,
et la PlayStation 3 sera pas à 1 800 €. Hein. Elle sera sans aucun doute dans les ordres de prix de la Xbox 360.
Et la Xbox, il y aura un lecteur de DVD HD dans la Xbox. Microsoft, d'ailleurs, a prévu de mettre un DVD HD, mais il a dit que si c'était le Blu-ray qui remportait la bataille, pas de problème, il s'alignerait et on aurait un DVD Blu-ray.
Ouais.
En fait.
Ouais, Bill Gates a dû se dire, finalement, je suis peut-être un peu trop mouillé sur le HD DVD, on va voir si le Blu-ray finalement on s'en sort. Je pense que si on a un conseil à vous donner, c'est il est urgent d'attendre. Hein. On va voir un peu qui va gagner cette bataille. Mais pour conclure, un mot quand même sur la performance de TPS, c'est un peu le champ du cygne, hein, pour TPS, parce que on voit que la fusion entre Canal Satellite et TPS est enclenchée. Là, ça y est, hein, c'est parti. Mmh. Et le champ du cygne pour TPS, ça sera quand même d'être le premier
à offrir
à lancer la haute définition, alors qu'on sait qu'à terme, ce bouquet va disparaître au profit de Canal Satellite.
Dialogue, François Sorel, Jérôme Colombin.
Alors François, est-ce que tu connais le C2C ?
Oui, j'ai révisé avant de venir, Jérôme. Hein. C'est le consumer to consumer. C'est le fait d'acheter de vendre entre particuliers.
Et ça explose sur Internet. Selon la FEVAD, la Fédération des entreprises de vente à distance, le commerce électronique dans son ensemble marche très bien, on le sait. Mais en plus, 40% des internautes français, paraît-il, feraient des achats sur des sites de vente aux enchères, eBay, Price Minister, etc.
Alors on va en parler avec Pierre Kosciusko-Morizet, qui est le patron de Price Minister. Bonjour.
Bonjour.
On ne présente plus Price Minister.
Non, je sais que Jérôme, que tu fais tes emplettes régulièrement sur Price Minister.
Absolument, je vais acheter des CD, des DVD, des choses comme ça.
Moi j'ai par exemple un ami à moi qui vend énormément de choses sur eBay, qui s'est pris de passion pour Price Minister aussi, hein, je vous rassure Pierre. Et le but du jeu, c'est est-ce qu'on peut en faire un métier ?
Alors clairement, il y a de plus en plus de Price Members, comme on les appelle, qui font de leur activité sur Price Minister un métier. Il y a des gens qui commencent à vendre un peu comme ça en hobby, et puis qui peu à peu mettent le doigt dans l'engrenage et se retrouvent à vendre tellement qu'ils arrivent en fait à gagner autant, voire plus d'argent en vendant sur Price Minister que dans leur métier classique. Et puis à un moment, ils se disent autant faire plus que du Price Minister.
Pierre, à votre avis, combien de gens vivent grâce à votre site ?
Alors, on entend régulièrement parler aux États-Unis de 700 000 personnes, je crois, qui vivent de leur vente sur Internet. Mais en fait, quand on creuse, en faisant une règle de trois assez simple, on se rend compte qu'il n'y a pas 700 000 personnes qui peuvent en vivre complètement. Et donc, il s'agit de gens qui ont un revenu substantiel. Alors, si on parle de revenus substantiels étant des revenus, par exemple, de l'ordre du SMIC, on a plusieurs dizaines de milliers de vendeurs sur Price Minister qui, chaque mois, ont des revenus substantiels en France.
Ils vendent quoi, ces vendeurs semi-professionnels ou professionnels ?
Ça peut être quelqu'un qui a une petite boutique de DVD et qui, au passage, vend sur Price Minister et qui, parfois, va faire 80% de son chiffre sur Price Minister, mais va continuer à avoir sa boutique qui lui sert de local, de stockage et puis de moyen de sourcer du produit, donc d'acheter des produits à des clients qui passent dans la rue qui leur vendent. Il y a aussi des vendeurs qui sont multi-produits, qui ont plutôt une logique d'opportunité, donc qui vont connaître des gens dans le milieu du déstockage pour acheter en lot et revendre à l'unité, parfois faire des faire des salons professionnels, faire des foires, enfin, récupérer comme ça des lots par opportunité.
Mais alors, on a vu récemment, à l'occasion d'une affaire, un procès dans l'Est de la France, je crois, qu'on ne pouvait pas comme ça s'improviser vendeur professionnel du jour au lendemain.
Oui, parce que finalement, on va créer une petite entreprise.
Oui, alors cet exemple de procès était particulier parce qu'en fait, il s'agissait de quelqu'un qui était un professionnel et, avec un magasin et qui vendait en plus sur Internet sans déclarer les revenus Internet, qui disait que les ventes sur Internet, il les faisait en tant que particulier alors qu'il vendait exactement les mêmes objets dans son magasin.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'était effectivement très limite. Il y a des cas qui sont pas toujours très simples. C'est vrai que quand un vendeur particulier commence à faire beaucoup de ventes, il sait pas forcément à quel moment il devient professionnel. Si vous vendez pour 500 euros par mois de DVD et qu'à côté vous avez un emploi à plein temps, vous n'êtes pas un professionnel. Quand si vous commencez à acheter des DVD pour les revendre et que ça vous prend plusieurs jours par semaine, bon bah là la question est assez simple.
Parfait, merci Pierre.
Très bien.
Merci à vous.
Et Dialogue c'est terminé. Jérôme, on se retrouve bien sûr mardi prochain.
Oui, et puis n'hésitez pas à nous écrire par mail pour nous dire ce que vous en pensez.
Oui, ça nous fera toujours énormément plaisir de vous lire. D'ici là, très bonne semaine et rendez-vous mardi prochain.
À bientôt.
Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.